De culte, c'est longtemps qu'on n'avait pas chanté tel que je suis sans rien à moi. Et ça m'a rappelé que ça fait très 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 longtemps que l'on chante dans cette église. Ça m'a rappelé, voilà, en le chantant avec vous, des temps qui datent d'il y a 40 ans ou je sais pas quoi, hein, on chantait. Je me rappelle en particulier d'une personne qui tenait absolument, et quand il y avait des moments, on n'était plus libre, on était moins nombreux, alors donc on dit, tiens, quelqu'un propose un chant, puis hop, on essayait d'y aller, et il y avait une personne qui proposait toujours, tel que je suis, ça. Les plus anciens doivent se rappeler de qui il s'agit. Bref, un très beau chant, et qui dit beaucoup de choses, mais pas, c'était pas le seul, les autres aussi. Voilà. Voilà. Je vous propose de lire ce matin, dans l'évangile de Matthieu, c'est fort, hein. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 11. Je vais casser un peu l'ambiance, là. Parce que Thomas nous a emmenés vers des hauteurs où tout va bien. Vous allez voir. On va se rattraper. Heureux serez-vous, c'est Jésus qui parle, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors j'ai découpé le texte que j'ai lu de façon peut-être un peu inhabituelle. Ça fait partie du sermon sur la montagne, mais ces quelques versets me semblent faire un pont entre deux parties du sermon sur la montagne. Il y a d'abord les béatitudes, hein, heureux êtes-vous, heureux ceci, heureux cela, etc. Vous les lirez dans le début du chapitre 5. Et puis à partir du verset 17, il y a, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, et là Jésus, on va dire, rentre dans le détail de la mise en application de ces choses-là. Alors moi aussi, pendant les vacances, j'ai lu un livre, un peu plus épais que celui de Thomas, mais en fait, puis je suis un grand lecteur, moi, donc j'ai lu celui-là, entre autres, entre plein d'autres. C'est le dernier livre que Frédéric de Coninck a écrit, pour ceux qui le connaissent, qui est une méditation sur les béatitudes au quotidien. Béatitudes qu'il médite lors de grandes marches, il a fait plusieurs fois le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et tout un tas d'autres chemins qui sont voilà, très longs et qui laissent apparemment largement le temps de méditer. Et donc, un certain nombre des réflexions que je vais partager avec vous ce matin sont issues de cette lecture-là. L'évangéliste Luc place cet épisode, ce sermon sur la montagne, un peu plus loin dans son récit. C'est au chapitre 6. Et donc, Luc place... Ça va aller, ça va se calmer. Luc place ce récit... Après que Jésus a commencé à vivre au milieu des gens et a commencé à montrer qui il était, à montrer sa puissance. Et puis la version est plus courte dans l'évangile de Luc. Il y a les béatitudes, après il y a « si quelqu'un te frappe sur une joue, tu tends l'autre ». Il y a « la paille et la poutre », il y a « la maison bâtie sur le sable ». Et puis ça s'arrête là en fait, hein, c'est une version plus courte. Matthieu place son discours en tête de son évangile. Une version qui est longue, qui rassemble sans doute des paroles que Jésus a dites à plusieurs moments, à plusieurs reprises. C'est pas forcément un discours qui s'est tenu en une seule fois, mais c'est en quelque sorte une introduction théologique à tout ce qu'il va mettre dans son évangile, à toute la façon dont il a envie de nous raconter qui était Jésus et en quoi c'était important de le savoir. Dans ma Bible, j'ai écrit il y a fort longtemps, je ne sais absolument pas quand, mais c'est... Voilà. J'ai écrit en sermon sur la montagne « Constitution du royaume de Dieu ». Je trouve que c'est pas, finalement, je garde l'expression, voilà, même si elle date de je sais pas quand et je sais pas où je l'avais trouvée. Mais toute cette partie du Nouveau Testament et de l'évangile de Matthieu, c'est effectivement la base. Alors, les huit béatitudes qui sont au début du chapitre 5, Elle forme un tout, une espèce de condensé, elle s'adresse de manière universelle à tous les domaines de la vie des êtres humains. La recherche du pouvoir, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres, c'est le même mot qui veut dire humble. Ça rappelle les questions que Thomas nous a posées en devoir de vacances tout à l'heure. La recherche du bonheur, heureux ceux qui pleurent aujourd'hui parce que demain ils seront consolés. L'action politique, heureux les doux parce qu'ils hériteront la terre. Pas exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines campagnes électorales dans le monde, mais voilà, c'est commentaire. Le désir de justice, l'engagement pour les autres avec l'appel à la miséricorde, une vie plus simple avec les cœurs purs, un désir de paix, hein, heureux les fabricants de paix ou les artisans de paix, avec les conséquences que cela peut avoir. Et donc la suite, après la parenthèse que j'ai lue avec vous tout à l'heure, va permettre d'approfondir certains de ces messages et de montrer que même quand c'est inscrit dans une loi, ce que Jésus nous demande, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que cela signifie. Et d'où c'est, vous avez entendu qu'il a été dit, ben moi je vais plus loin que ça. Hein. Vous avez entendu, tu me tueras à poids, moi je vous dis, si tu traites ton frère d'imbécile, c'est comme si tu le tuais. Il faut réfléchir à ces phrases-là, on les cite souvent comme ça. Mais c'est tellement vrai, et ça a tellement de conséquences dans les relations entre les gens, que ça vaut vraiment la peine de réfléchir. Et je ne peux que vous encourager, comme le fait Frédéric de Coninck, à méditer. Hein, il parle de la communauté de Pomerol, où effectivement, c'est leur mot d'ordre. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité et miséricorde. Mais à partir de la 9e béatitude, si on peut dire, celle que j'ai lue, on est un peu différent, c'est moins une formule un peu lapidaire. Si les huit premières béatitudes s'adressent à tout le monde, si j'ose dire, là, ce qui est dit, c'est il parle de ceux qui seront persécutés à cause de moi. Donc, à cause de Jésus, il s'adresse donc aux gens qui croient en Jésus. Il s'adresse aux chrétiens, pour dire un mot d'aujourd'hui. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à moi particulièrement. Là où peut-être avant, ça avait un sens peut-être plus universel, ou qui pouvait avoir un sens plus universel. Et c'est en quelque sorte à nous que Jésus passe le relais en disant « C'est vous maintenant qui devez être les prophètes dans ce monde. » C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes autrefois, et Jésus était un prophète parmi d'autres, bien évidemment, reconnu par certains et refusé par d'autres. Et il nous demande en quelque sorte, à nos risques et périls en quelque sorte, mais de prendre le relais, c'est à nous qu'il s'adresse. Alors un prophète, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Pour nous, c'est parfois quelqu'un qui a des visions, qui a parfois un comportement un peu étrange. Hein, si vous regardez les prophètes de l'Ancien Testament, il y en a un qui se promenait tout nu, il y en a qui se couchait sur un côté pendant je ne sais combien de mois pour signifier quelque chose. Bon, voilà. Si vous lisez la façon dont se sont comportés les grands prophètes de l'Ancien Testament, bon, ils n'avaient pas de vidéos, hein, ils n'avaient pas des films, ils n'avaient pas des trucs pour montrer. Donc ils faisaient des mimes en permanence, des personnages hauts en couleur, hein, Moïse et la mer rouge, Élie au Carmel, Ésaïe et ses visions extraordinaires, etc. Mais ce que ce texte suggère ici, c'est que le prophète, c'est surtout quelqu'un qui met en pratique et qui propose, qui ordonne, qui supplie ses auditeurs de faire pareil et de mettre en pratique cette constitution du royaume de Dieu qu'on a vu plus tôt. C'est quelqu'un qui perçoit l'écart entre nos vies et ce que Dieu nous propose comme vie. C'est quelqu'un qui s'attriste peut-être de certains choix personnels, communautaires, publics, politiques, ecclésiaux, que sais-je, qui ne peuvent pas manquer d'attirer des conséquences sérieuses. D'où le côté un peu Cassandre des prophètes. Hein. Et si vous ne faites pas ça, ben vous allez voir ce qui va vous arriver. Mais c'est parce que le prophète, en quelque sorte, est chargé de mesurer l'écart entre la vie des gens et ce que Dieu voudrait pour eux, pour que leur vie soit pleine, entière et heureuse. Alors, certains ont sans doute plus particulièrement ce rôle dans l'Église en particulier, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Hein. Vous lirez dans les Épîtres de l'apôtre Paul, il est question de ce rôle de prophète où des gens sont particulièrement, capables de dire des choses qui ont un sens profond. Mais ce rôle de témoin n'est pas réservé à ces gens-là et nous sommes tous appelés à être des prophètes. Et ce que nous disent ces textes que nous avons vus là, ce n'est pas que si nous sommes des prophètes fidèles à la parole de Jésus, des persécutions ou des ennuis peuvent nous arriver, persécutions de toute nature, hein, de tout degré. Mais ce qui serait grave, c'est que le sel n'ait plus de goût. C'est que la lumière soit cachée. C'est ça qui serait grave. C'est ça qui ferait que nous ne remplirions pas notre rôle de prophète. Et c'est ça qui nous menace aujourd'hui. Si nous voulons porter le message de Jésus-Christ, c'est que parfois, pour des raisons que je ne critique pas, parce que j'ai les mêmes souvent, on n'ose pas, on ne va pas assez loin, ou on assaisonne un peu différemment notre pensée pour passer entre les mailles du filet, pour arriver à être respectable. Et tout ça se comprend, et il ne s'agit pas de critiquer tel ou tel. Mais ce que Jésus nous propose, c'est une radicalité dans la mise en œuvre, la prise en compte du message qu'il voulait apporter pour que les gens puissent changer de vie, pour que les gens puissent véritablement être heureux. Alors, Jésus s'adresse à ses disciples, il s'adresse à nous. Si vous voulez devenir ou être vraiment les prophètes qui prendront ma suite, alors attention à ce que le sel de vos paroles, vos prises de position soient toujours là. L'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, dit quelque chose du même ordre. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Ce que Jésus nous propose, c'est que notre lumière continue à briller. Hein, cette image de « on ne met pas une lampe sous le boisseau ». Là, vous savez, à l'époque, bon, il s'agissait de lampes, ce n'est pas l'électricité, hein, c'est des lampes à huile ou quelque chose comme ça. Quoi. Enfin, il y avait un produit qui brûle. Et donc, quand on l'allumait, on la mettait sur quelque chose qui permettait qu'elle éclaire la pièce. Et après, on mettait dessus le boisseau pour l'éteindre. Voilà. Et donc, si on allume la lampe et que tout de suite on met le boisseau, ça ne sert à rien. Et cette lampe n'apportera pas de lumière. Alors que nous sommes appelés à transmettre le message de la vie, le message essentiel que Dieu nous propose. Dans Luc, on l'a dit tout à l'heure, la version des Béatitudes est un peu plus courte, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand même intéressante à regarder, elle n'est pas construite tout à fait pareille. Luc, il dit « Heureux êtes-vous si » et quelques versets plus loin « Malheur à vous si ». Donc à chaque fois, il donne une chose et son contraire, d'une certaine manière. Et pour le thème pour ce que je commentais tout à l'heure, je vais lire Luc 6, verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. » Là, on est à peu près équivalent à ce qu'on a lu dans l'évangile de Matthieu. Et quelques versets plus loin, verset 26. « Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. » Tiens, ça rappelle un peu l'histoire de l'estime de soi que Thomas nous défaillait tout à l'heure. Ce n'était pas prévu, mais ça me traverse l'esprit. « Malheur à vous lorsque les hommes parleront bien de vous. » C'est comme ça qu'ils faisaient avec les faux prophètes. C'est comme ça qu'ils faisaient avec ceux qui n'étaient pas à leur place. Alors qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète? Est-ce que c'est un être abominable qu'il faut mettre en prison? Je ne sais pas. Jésus, dans l'Évangile, est souvent interrogé, ses détracteurs lui demandent des signes, lui demandent des réponses, etc. Et un épisode qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, ses détracteurs lui demandent un signe. Matthieu 12, verset 38. Et Jésus va donner le signe d'un prophète. Ah, ça nous intéresse, ça. On va lire quelques versets. Matthieu 12, 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Eh bien, il ne leur sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Si Jésus voulait se comparer à un prophète, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris un prophète haut en couleur, quoi ? Quelqu'un de super. Parce que Jonas, quand même, c'est pas terrible, hein ? Enfin, vous lirez l'histoire de Jonas. Bon, c'est pas le plus top des prophètes. Il y a Moïse, paf, il a ouvert la mer Rouge, il a fait sortir le peuple d'Égypte. Enfin, voilà, on a des choses. Élie, on l'a déjà dit, hein, qui invoque le feu de l'Éternel, qui consume le sacrifice, etc., etc. Enfin, il y a des gens vraiment dont la vie a été marquée par des périodes. Voilà. Excessif, parfois d'ailleurs, mais bon, après des fois, ils s'en sont un peu mordus les doigts, mais bon, c'est comme ça. Ézéchiel, qui a ces visions extraordinaires, des, vous savez, les visions des ossements qui se recouvrent de chair progressivement, comme une armée qui se met en marche et qui, le peuple qui va renaître, enfin, voilà, des choses extraordinaires. Daniel dans la fosse aux lions, Daniel dans la fournaise, et qui est pas, même pas, les cheveux sont même pas brûlés, c'est. Mais non. Jésus choisit Jonas. Il était prophète. On ne sait pas exactement pourquoi il était prophète, qu'est-ce qu'il avait comme message particulier. On ne sait pas grand-chose de Jonas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un jour, Jésus lui dit, bah, « Tiens, ton rôle de prophète va peut-être se compliquer un petit peu, mon petit Jonas. Je t'envoie à Ninive et tu vas aller prêcher la bonne parole là-bas à Ninive. » Et oui, une mission spéciale que Dieu lui confie. C'est quand la dernière fois que Dieu nous a confié ou m'a confié une mission spéciale. Il m'a demandé de faire quelque chose qui était un peu compliqué, qui m'obligeait de sortir de mes habitudes et de ce qui me va bien et ce qui fait ma routine où finalement je ne suis pas tellement en danger et la vie se passe pas si mal que ça. Et Jonas, il décline et il fiche le camp. Vous connaissez l'histoire. Il refuse de suivre la demande, il refuse de porter la parole prophétique. Alors, il a tout un tas de bonnes raisons. C'est Ninivite, c'est des gens abominables. On sait bien que ça ne sert à rien. De toute façon, ils sont foutus. Et puis, on ne va quand même pas perdre son énergie à aller là-bas. Bref, tout ce que vous lirez ça. Et comme vous savez, ça déclenche des forces. Les forces du chaos, la tempête, le gros poisson, etc. Jonas est englouti, c'est la fin. Est-ce que Jonas n'était pas à ce moment-là un faux prophète ? Il s'était écarté du rôle qu'il avait. Il s'était écarté de son rôle. Quelque part, quand Jésus a terminé son ministère sur la terre, et que les gens ont vu que finalement, malgré tout ce qu'il avait dit, malgré le fait qu'il avait été jusqu'au bout de ses paroles, bah, il était mis à mort. Ils ont dit aussi, c'est la fin. D'ailleurs, c'est sur ce point précis que Jésus fait la comparaison avec Jonas. Hein, vous avez bien entendu, c'est la comparaison de même que Jonas a été 3 jours dans le poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours dans la terre et puis il ressuscitera. C'est sur ce point précis que Jésus le fait. Mais Jésus prend comme exemple, je trouve ça amusant, comme signe, un prophète qui a été un peu faux prophète quand il s'enfuit dans son bateau. Et puis il a été prophète de nouveau quand il est finalement allé à Ninive pour délivrer son message. Puis il a de nouveau été un peu faux prophète quand il s'est mis en colère parce que finalement son message avait porté ses fruits et voilà que les Ninivites manque de chance, ils se convertissent, ils se repentent tous, le sac, la cendre, etc. Même les hommes, même les animaux étaient obligés de se confondre en excuses. Donc, il était nouveau faux prophète. Et puis, voilà, on voit un Jonas qui, finalement, pour tout un tas de raisons, ben, il n'est pas droit comme dans ses bottes. Hein. Il est un peu hésitant, il est un peu comme nous, non ? Il est un peu comme moi, peut-être. Il y a des moments où on est prêt à foncer, là. Le dimanche matin, on chante des chants, c'est super. Et puis peut-être à 13h, quand on va, je sais pas quoi, rencontrer quelqu'un, rentrer chez soi, etc., poum, tout d'un coup, ben on sera un peu moins dans la ligne, si j'ose dire, peu fiable. Quand mon attitude, quand mes choix au quotidien, quand mes paroles ne rejoignent pas ce que les béatitudes me proposent, et ce qu'elles proposent dans tous les domaines de la vie, je l'ai dit tout à l'heure, en particulier quand Dieu me demande quelque chose de spécifique, de particulier, quand il m'envoie pour une mission particulière. Alors, ce n'est pas forcément aussi grandiose que Jonas, ce n'est pas forcément aussi risqué, on ne risque pas sa tête, surtout dans nos pays où quand même, bon, voilà, pour le bien ou pour le mal, globalement c'est plutôt positif, mais on ne risque pas trop la persécution. Il y a des endroits dans le monde où les choses sont sans doute plus compliquées. Et quand je refuse l'obstacle, vous savez, comme le cheval qui au dernier moment... Hop, il saute pas. Tout le monde se retrouve par terre. Alors certes, je serai peut-être bien accueilli, je serai peut-être bien vu, je garderai mon rang social, je serai, voilà, il n'y aura pas de tâches et tout ira bien pour moi et je continuerai à vivre dans la société. Mais je ne remplirai pas ce rôle de prophète que Jésus veut me confier à sa suite. Et je me comporte en quelque sorte comme un faux prophète. Alors espérons que c'est comme Jonas, que ça n'est que temporaire. Après, finalement, on y va à Ninive. On décide d'y aller quand même si ça ne se passe pas très facilement. Je crois que nous sommes, voilà, c'était un petit peu cette idée que nous sommes tous appelés à être des prophètes à la suite de Jésus pour pointer du doigt les écarts qu'il y a entre les choix que nous voyons autour de nous et ce que Jésus nous appelle à faire de manière assez radicale. Mais juste deux, trois points avant de conclure. Tout d'abord, on voit dans ces exemples que j'ai cités que le résultat ne dépend pas ou pas entièrement de nous. Il y a des fois des choses extraordinaires qui n'amènent que peu de résultats. Jésus a vécu une vie exemplaire. Il a été jusqu'au bout dans la mise en œuvre de ces béatitudes qu'il avait, dont on voit la lecture dans Matthieu 5. Il n'a rien lâché jusqu'au bout. Et à vue humaine, ça s'est mal terminé. Et après sa mort et sa résurrection, seule une poignée de gens ont continué chaotiquement et tellement difficilement à croire que c'était quand même lui, le Christ, le Fils de Dieu, c'était en lui qu'il fallait placer sa confiance. Après, grâce à Dieu, les choses ont pu grandir et nous sommes là aujourd'hui pour en témoigner. Mais le résultat ne dépend pas de nous. Mais à l'inverse, pour Jonas, il n'attendait pas du tout ce résultat. Et Dieu lui a montré de façon éclatante que le résultat, c'était sans doute pas sa petite personne qu'il avait créée, parce que quand même, il allait à Ninive un peu à reculons, quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on ne sait pas trop comment il a délivré son laïus, Jean de Ninive. Mais enfin, bon, il devait quand même être un peu mal orienté. Le résultat ne dépend pas complètement de nous. Et ces païens auxquels Jonas ne vouait aucune confiance, il avait la trouille, il ne voulait pas y aller. Malgré ça, eux, ils ont saisi la force du message qui venait de la part de Dieu, même au travers d'un prophète pas toujours très bon, de quelqu'un de pas très fiable et d'un conduit qui parfois est un peu bouché et qui fait que le message il est sans doute un peu perturbé. Une deuxième remarque, c'est que dans le texte que nous avons lu, il est dit « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, même si vous êtes persécutés ou si vous avez des difficultés, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et le mot qui est utilisé pour récompense, là je m'appuie sur ce que dit Frédéric de Colin, c'est le mot qui veut dire salaire. C'est-à-dire c'est ce que l'on donne en échange d'un travail accompli. Vous savez, quand on a un contrat de travail, il est normal de faire son travail, et puis il est normal qu'à la fin du mois, on ait un salaire. Voilà. Ça s'appelle un contrat. Et les deux parties doivent remplir leur morceau du contrat. Et puis à partir de là, les choses vont bien. Et je pense que c'est la deuxième remarque. Nous ne devons jamais oublier que nous n'avons aucune gloire à tirer de ce qui se passe, quand véritablement nous sommes les prophètes que Dieu attend pour dire des choses importantes s'il y a des résultats. Nous n'avons aucune gloire à en tirer. On l'a un peu dit tout à l'heure. Hein. Moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel, moi, je suis plus fort qu'eux, etc. Non. Rien à en tirer. Et si on peut prendre un dernier exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 17, c'est qu'on est verset 5, les apôtres viennent dire au Seigneur, augmente-nous la foi. Alors, on pourrait s'interroger d'ailleurs pour quelle raison ils avaient envie qu'on leur augmente la foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors, heureusement qu'il ne l'avait pas, parce que sinon, la vie serait difficile. Ce que Jésus leur dit, en fait, votre question, augmente-nous la foi, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il continue et il dit, qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, viens mon ami, viens te mettre à table. Est-ce qu'au contraire, il ne lui dira pas, prépare-moi d'abord le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que moi j'ai fait un bon repas, et après, toi tu mangeras et tu boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. C'était la deuxième remarque, nous n'avons aucune gloire à tirer de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas. Nous avons simplement à être à la place où Dieu nous attend, à répondre à son appel, à réfléchir qu'est-ce qui dans notre vie doit changer, évoluer, bouger pour que nous soyons plus proches de cet idéal qui nous est décrit dans les huit béatitudes du début du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et après, le reste appartient à Dieu en grande partie. Mais Dieu attend de nous que nous soyons à son service et que nous prenions véritablement ce relais pour être prophètes. Et lire notre vocation prophétique comme un travail la rend finalement plutôt modeste. Nous ne faisons rien d'héroïque. Nous sommes simplement appelés à mettre nos pas dans les pas de Jésus. Et bien souvent, ça part de travers, on n'est pas tout à fait où il faut, etc. Et Dieu ne nous en tient pas rigueur. Il veut simplement que nous essayions de continuer à garder la saveur du sel, que notre lumière continue à briller. Alors bien sûr, ça peut comporter des risques. C'est ce que disait le texte que je lisais en commençant. Hein, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des risques. Ouais, oui. Ça peut prendre des risques. Jésus a vécu tout cela jusqu'au bout. Mais si nous choisissons de mettre en pratique cette contre-culture heureuse des évangiles, hein, c'est lui qui utilise ces mots-là, donc je cite, dans l'ordinaire de nos vies, alors Jésus lui-même sera avec nous chaque jour. Et je vais lire quelques versets dans le psaume 91, qui m'a lu ce matin pour différentes raisons. Et je trouve qu'ils vont bien avec, j'avais pas imaginé ça, mais « Tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai. » Je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours. » Et en fait, si nous mettons nos pas dans les pas de Jésus, et si nous sommes conscients que l'exigence est haute, mais le chemin, nous ne le faisons pas tout seul, nous le faisons avec lui, alors soyons confiants aussi, et c'est peut-être pour l'année qui vient, puisqu'on est au moment de la rentrée, là, voilà. Ce que je vous souhaite, c'est à la fois d'être conscients que nous sommes appelés à être prophètes à la suite de Jésus, c'est-à-dire à avoir une vision claire de ce qu'est son message et de ce qu'est sa volonté pour nous et pour les autres, et en même temps d'avoir pleine confiance en lui. Peut-être nous allons avoir de l'opposition, peut-être nous allons rencontrer des difficultés, mais puisque nous avons mis notre confiance en lui, alors il nous le promet, il nous aidera, il nous tiendra par la main et nous aidera à avancer. Je vous invite à la prière. Seigneur, en cette fin de période de vacances, les activités vont redémarrer, la vie ordinaire, si j'ose dire, va redémarrer. Merci parce que tu as un projet pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais là où nous sommes fragiles, tu sais là où nous avons du mal à mettre en œuvre ces béatitudes dont nous avons parlé. Peut-être nous ne sommes pas vraiment artisans de paix. Peut-être nous avons du mal à user de miséricorde pour des gens fragiles. Peut-être tel ou tel point nous fait défaut. Tu veux nous aider nous-mêmes à progresser avec toi, à être ainsi des prophètes qui portent ta parole dans le monde, pas seulement par des mots, mais par notre présence, par notre attitude, à chaque instant de notre vie. Alors Seigneur, nous te demandons de garder chacun d'entre nous. Nous te remettons aussi tous ceux des nôtres qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous te demandons de les inclure dans ces bénédictions que nous te demandons de répandre sur chacun de nous, pour que, pendant toute cette année qui s'ouvre, notre sel puisse continuer à avoir sa saveur et que notre lumière puisse continuer à briller. Briller non pas pour nous, mais briller pour faire connaître ta parole. Amen.